France Culture, il est 12h30. Je vous retrouve dans une vingtaine de minutes pour la grande table des idées autour de la convention qui s'est tenue hier, dont vous nous parlerez sûrement aussi, Thomas Cluzel, dans votre journal. Bonjour.
Et c'est Antoine Maret. Bonjour à tous.
Ah, je ne savais pas. Bonjour Antoine Maret.
10 enfants de djihadistes français rapatriés la nuit dernière. Ils étaient retenus dans des camps sous contrôle des Kurdes en Syrie. Ils ont été remis aux autorités judiciaires françaises. Le décrochage scolaire au cœur des préoccupations du ministre de l'Éducation nationale. Jean-Michel Blanquer l'a répété ce matin à l'occasion de la journée de reprise pour les écoliers et les collégiens. Invitée de ce journal, la chercheuse Claire Mélier-Wilson. Nous évoquerons avec elle la Convention citoyenne pour le climat qui a rendu sa copie hier. À la une de l'actualité internationale, cette question, y a-t-il une nouvelle vague de Covid-19 en Allemagne ? Plusieurs nouveaux foyers sont apparus ces deux dernières semaines. Du coup, le taux de reproduction du virus a bondi. Et puis la polémique qui enfle au Royaume-Uni après l'attaque au couteau de samedi qui a fait 3 morts. Le suspect était déjà connu des services de sécurité, mais son dossier avait été classé sans suite. C'est une information révélée ce matin par le Quai d'Orsay. 10 enfants de djihadistes français ont été rapatriés la nuit dernière. Ils étaient retenus dans des camps sous contrôle des Kurdes en Syrie. Certains sont des orphelins, d'autres des cas humanitaires. Ils ont été remis aux autorités judiciaires françaises et ils font désormais l'objet d'un suivi médical particulier et d'une prise en charge par les services sociaux. Cette question des enfants de djihadistes français retenus en Syrie est un sujet très sensible en France, Florence Turm.
Depuis l'effondrement du groupe État islamique en Syrie, une centaine de femmes françaises et quelques 250 enfants sont retenus dans des camps au nord-est du pays, dans des conditions sanitaires extrêmement précaires qui entraînent maladies et décès. Le Quai d'Orsay a choisi de procéder au cas par cas en fonction des situations individuelles, alors que leurs proches et de nombreux organismes humanitaires réclament le rapatriement de tous, insiste Marie Dauzet, avocate de plusieurs familles.
Ceux qui ont été rapatriés aujourd'hui représente évidemment un immense espoir pour tous ceux qu'il reste. Une vie sauvée, c'est une vie sauvée. Force est de constater tout de même qu'il en reste tant là-bas. Nous, ce que nous attendons et ce que nous demandons depuis maintenant 2 ans, c'est le rapatriement de tous ces enfants avec leur mère. Les enfants qui ont été rapatriés, là, il y a d'abord des orphelins, et puis il y a ceux qui ont été séparés de leur fratrie et séparés de leur mère. Le Quai d'Orsay a considéré qu'ils étaient des cas humanitaires, tout simplement parce que leur mère ne peut plus s'en occuper, que c'est trop compliqué de les nourrir, de les soigner et de supporter de les voir dépérir sous sa tente. Mais en attendant, j'ai du mal à considérer que l'intérêt supérieur de ces enfants, c'est de rentrer seuls, en sachant leur mère et leur petit frère est seul, sous la tente dans laquelle ils ont souffert avec eux pendant des mois et parfois des années.
Ces 10 enfants, ils ont tous moins de 10 ans, vont d'abord être pris en charge médicalement afin d'évaluer leur traumatisme, leurs blessures physiques, les maladies et les carences dont ils souffrent. Ils seront ensuite placés dans des familles d'accueil avant de retrouver ultérieurement, si les conditions le permettent, leur propre famille.
C'est aujourd'hui la reprise pour les écoliers et les collégiens, une petite reprise de 2 semaines avant les grandes vacances. Un retour en classe souhaité par le gouvernement, il est obligatoire et selon les règles de présence normale, à l'exception des lycées. Et le ministre de l'Éducation nationale l'a répété ce matin chez nos confrères de France Inter, l'objectif c'est bien le retour de 100% des élèves. Désormais, Jean-Michel Blanquer a un objectif, lutter contre le décrochage scolaire, Hakim Kasmi.
Même si le nombre de décrocheurs a été divisé par 2 depuis la fin du confinement, pour Jean-Michel Blanquer, il faut un plan ambitieux de remise à niveau dès la rentrée de septembre, ce qui passera notamment par les tests, mais aussi par les travaux personnalisés en petits groupes.
Ça concerne potentiellement tous les élèves. Il y aura des évaluations de début d'année. Pour le CP et le CE1, on a déjà fait ça ces dernières années. En 6e, on va avoir une évaluation particulièrement robuste dans son contenu, notamment pour le français et les mathématiques, de façon à déclencher ensuite de l'aide personnalisée. On va laisser aussi beaucoup de marge de manœuvre aux établissements pour concevoir leur propre manière de faire ce rattrapage, en leur donnant des moyens à la fois en heures supplémentaires, mais aussi en liberté d'organisation.
Quant aux moyens humains et financiers alloués pour ce dispositif, le cabinet du ministre que nous avons joint ce matin n'a pas pu nous apporter plus de précisions. En revanche, il précise que le plan sera fait en concertation avec les partenaires sociaux. Mais attention à ne pas catégoriser tous les élèves dès la rentrée de septembre, prévient Stéphane Crochet, secrétaire général de l'UNSA.
Nous nous méfions de tous les dispositifs qui viendraient s'ajouter à la classe, mais qui donc seraient à côté de la classe, parce que le premier enjeu, ça va être de revenir ensemble, en cours, et de voir où est-ce que chacun en est. Il va falloir se remettre en route et de premières hésitations chez les élèves dans les premières semaines de septembre ne voudront pas dire qu'ils auraient tout perdu. Il va y avoir un vrai temps important de remise en route des apprentissages chez les élèves.
Aujourd'hui, il reste encore 500 000 élèves qui n'ont pas eu de contact avec leurs enseignants depuis des mois.
C'est une première en France. 150 citoyens tirés au sort qui ont formulé presque autant de propositions pour répondre à l'urgence climatique. Cette convention citoyenne pour le climat a rendu sa copie hier. Elle réclame notamment l'introduction de la lutte contre le réchauffement climatique dans la Constitution et la création d'un crime d'écocide par référendum. Laurence Tubiana est la coprésidente de cette convention. Je vous propose de l'écouter.
Bien sûr, il y aura beaucoup d'interprétations pour dire que ces citoyens sont des écologistes radicaux, qu'ils ont été complètement décérébrés par tel ou tel. Bon, mais évidemment, c'est faux. Et je crois que tous les responsables politiques, syndicaux, associatifs devraient considérer ce pas en avant très grand que ces citoyens ont fait comme le mouvement très profond de la société française. Sinon, ça veut dire qu'on ne croit pas à l'exercice. Et moi, j'y crois.
Bonjour Claire Mélier-Wilson.
Oui, bonjour.
Vous êtes chercheuse observatrice assidue de cette Convention citoyenne sur le climat et d'ailleurs vous êtes impliquée dans un processus similaire au Royaume-Uni. Il y avait un doute sur la capacité d'impliquer des citoyens de tous horizons, des citoyens lambda, de les former sur des sujets très techniques, très complexes, de les faire travailler ensemble. Est-ce que cet exercice d'intelligence collective, il a été réussi selon vous ?
Eh bien, c'est une expérience qui est fascinante, puisqu'effectivement, on voit 150 citoyens, 150 individus au départ, être exposés à des experts, prendre en connaissance, monter en compétences et arriver au final à faire des recommandations au sein d'une assemblée. Donc, on passe finalement d'un processus de 150 individus à une assemblée. Et je crois qu'on peut vraiment parler d'intelligence collective, effectivement. Et c'est pas un processus extractif où on cherche à consulter des citoyens sur des politiques publiques, mais ce sont vraiment eux qui ont initié et qui ont créé en fait ces mesures. Donc on peut vraiment parler d'intelligence collective, oui, je le pense.
Question de Véronique Rebérotte.
Claire Meillet-Wilson, est-ce que ça montre que quand on forme des citoyens, non seulement ils comprennent parfaitement le thème, ils sont crédibles, ils comprennent les enjeux, ils rendent des décisions bien plus ambitieuses d'ailleurs que les politiques, au risque d'être traités de radicaux, comme on l'a entendu à l'instant, c'était la crainte de Laurence Tubiana. Finalement, ces citoyens, ils ont fait vraiment le travail et ça montre qu'ils peuvent être à la hauteur, j'allais dire, de ces enjeux très importants.
Oui, effectivement. Et vous le dites, il y a un risque, c'est qu'on dise ces citoyens sont radicaux, ont été radicalisés, sont plus écolos que le citoyen ordinaire. Moi, la question que je poserais, c'est sont-ils radicaux ou sont-ils libres ? C'est des citoyens qui n'ont pas de mandat électif, qui sont pas soumis à des pressions des lobbies. Ils ont la liberté d'être radicaux, en fait. Et c'est ça qui est fascinant avec ces processus d'assemblée citoyenne. C'est qu'on libère en fait l'intelligence collective, on libère finalement l'individu de carcans auxquels sont soumis notamment les politiques qui ont des pressions de réélection, des pressions des lobbies. Et on voit que dans ces processus-là, quand on met des citoyens qui sont représentatifs de la population, on s'aperçoit que les choix peuvent être radicaux, mais ils sont radicaux parce que le citoyen est libre. Et c'est ça qui est le potentiel pour moi énorme de ces processus-là d'assemblée citoyenne, c'est qu'on dépasse finalement les limites des contraintes auxquelles font face les politiques.
Alors, ceci dit, ces 150 citoyens, ils ont fini par donner les clés aux politiques. Ils ont soumis très peu de leurs propositions à référendum, même aucune, hein, on en a parlé tout à l'heure, mais il n'y en a aucune qui ont été soumises au référendum. Ça veut dire quoi ? Ils ne sont pas allés jusqu'au bout ? C'est pas leur boulot ? Et qu'est-ce qu'ils ont ? Ils ont eu peur aussi peut-être d'être désavoués, hein, c'est ce qu'on a vu par des Français qui seraient moins formés qu'eux.
Oui, ils ont choisi de ne pas mettre au référendum les groupes d'objectifs. Ils ont quand même, il y aura deux suggestions de référendum qui ont été soumises donc à l'exécutif. Mais ça, c'est en termes de mesures, vous avez raison. Ils étaient un peu frileux. Je dirais, moi, je peux les comprendre. On a vu ce à quoi peut porter un référendum sans débat. pas contradictoire en avant. Le Brexit est là pour démontrer qu'un référendum où le débat en amont est pas bien mené peut effectivement être plus peut diviser plus que qu'unir. Donc je comprends d'une certaine façon leur crainte, et ça prouve que ces citoyens-là, ils ont vraiment réfléchi aux enjeux et aux risques. C'est un petit peu dommage aussi, parce qu'on a vu par exemple dans le cas irlandais, suite à l'Assemblée citoyenne sur la légalisation de l'avortement, on a un référendum qui a révélé un taux similaire de soutien à l'avortement par rapport à ce qui était sorti de l'Assemblée citoyenne. Donc, mais la différence, je pense, c'est que dans le cas de l'Assemblée citoyenne irlandaise, il y avait eu un débat en continu durant toute la durée de l'Assemblée. Et c'est ça, ce que j'en retire, moi, c'est qu'il faut, en fait, que ces assemblées citoyennes, elles soient extrêmement médiatisées durant tout le processus, et qu'on crée les conversations au sein de la population, et éviter de les limiter juste finalement à 150 citoyens tirés au sort. Et c'est, je pense, quand même l'ambition qui était cherchée avec la convention, avec l'ouverture à la presse et l'ouverture aux chercheurs notamment, cette idée qu'il faut que la conversation aille au-delà. Mais juste pour synthétiser, je pense je comprends leurs craintes aussi. Donc, c'est légitime.
Une dernière question, Claire Meyer-Wilson. Est-ce que cette convention, c'est le début de quelque chose? Une autre démocratie est possible, plus citoyenne? C'est un acte 1?
Effectivement, c'est un acte 1 pour moi. C'est la première étape. Les impacts que ce processus vont avoir, on va pas le voir de suite. Hein. C'est un processus qui est vraiment ancré dans un contexte politique. Il va y avoir une conversation qui va se créer avec l'exécutif. On le sait, Emmanuel Macron va recevoir les citoyens le 29 juin. Et puis ça va être l'acte 2. Et puis après, il y aura un acte 3. Et puis il faudra voir si les ambitions de la convention vont vraiment mener à des changements d'ordre systémique en France, et est-ce que la France va montrer l'exemple?
Eh bien, on verra ça. Merci à vous. Merci beaucoup à vous, Claire Meyer-Wilson, d'avoir accepté notre invitation. Merci également à vous, Véronique Rebérod. Et penchons-nous maintenant sur la traduction politique de cette convention. Parmi les hypothèses envisagées, celle d'un référendum, ça n'est pas encore tranché. Et d'ailleurs, les 150 citoyens ne suggèrent pas de consulter les Français que sur... Enfin, ils suggèrent de les consulter que sur deux de leurs propositions. Pour le reste, ils demandent au Parlement de légiférer, de prendre leur responsabilité en quelque sorte. Bonjour Stéphane Robert.
Oui, bonjour.
On se demandait si cette convention citoyenne allait avoir des prétentions politiques, et finalement, on s'aperçoit qu'elle n'en a pas, et même qu'elle s'en remet aux politiques.
Oui, nous en parlions il y a un instant. Hein. Cette convention citoyenne pour le climat était présentée à l'origine comme un exercice de démocratie participative inédit. Les 150 citoyens y participant ont été tirés au sort. Ils ont réalisé un travail de documentation et de consultation très élaboré qui débouche sur 149 propositions. Et désormais se pose la question de leur application, de leur traduction politique. Donc, qu'est-ce qu'on en fait concrètement? On pensait à l'origine que le fait de demander à des citoyens d'imaginer des solutions aux enjeux climatiques allait donner du crédit et de la légitimité à leurs propositions. Car du fait qu'ils ne sont pas des professionnels de la politique, ils sont censés ne pas défendre des intérêts particuliers, mais se préoccuper uniquement de l'intérêt général. Et on imaginait donc que, libérés du discrédit qui touche le personnel politique, ils allaient émettre des propositions qui auraient d'autant plus de légitimité au regard de l'opinion. Or, non seulement on voit qu'il n'en est rien, la question de leur application n'est pas tranchée, mais que eux-mêmes s'abstiennent de prendre toute responsabilité politique. C'était pourtant dans le cahier des charges fixé il y a un an par le Premier ministre. Il faudra à cette convention déterminer ce qu'il convient de soumettre à référendum et ce qui relève de mesures législatives, disait la lettre de mission. Or, les 150 proposent, on l'a dit, de ne recourir au référendum que sur deux mesures, l'inscription dans la Constitution de la lutte contre le réchauffement climatique et la création d'un crime d'écocide, des mesures qui auront peu de conséquences concrètes. Pour le reste, ils demandent au pouvoir exécutif et à la représentation nationale, aux élus donc, de prendre leurs responsabilités. En gros, ils disent aux responsables politiques, chacun son boulot, nous faisons des propositions, mais c'est à vous de trancher. Ce faisant, ils n'inscrivent aucunement leur démarche dans une concurrence avec la démocratie représentative. Ils ne remettent aucunement en cause la source de la légitimité de la décision, qui est l'expression populaire traduite au moyen des élections. Reste donc désormais à savoir ce que fera de ces travaux le pouvoir politique, en particulier le président de la République. Un référendum, pas de référendum. Et si on en fait un, sur quelle question, c'est lui qui va décider, sachant que dans la plupart des cas, les Français ne répondent pas à la question posée, mais à celui qui la pose.
Merci à vous Stéphane Robert. Et puis l'écologie, on en reparle avec la suppression annoncée des lignes aériennes intérieures courtes, celles pour lesquelles il y a une alternative en train de moins de 2h30. C'est ce qu'a annoncé ce matin le secrétaire d'État aux transports. Cela concerne toutes les compagnies, pas seulement Air France, y compris les low cost. Le gouvernement va donc prendre un arrêté dans ce sens au nom de la préservation de l'environnement, Annabelle Grelier.
Le projet de supprimer les liaisons aériennes de courte distance passe tout de même par un encadrement juridique. Car dans l'immédiat, certes, l'interdiction ne porte que sur 3 lignes, Orly-Bordeaux, Orly-Nantes et Orly-Lyon, mais de nombreux autres pourraient être concernés à moyen terme si, comme la Convention citoyenne le préconise, le gouvernement élargissait l'interdiction de l'avion aux liaisons desservies par le train en moins de 4 heures. Si tel était le cas, environ un quart du trafic intérieur aérien au départ de Paris pourrait être concerné, transportant environ 4 millions de voyageurs par an. Une manne suffisamment importante pour intéresser les compagnies low cost, qui à ce jour ne sont que très peu présentes sur ces lignes. EasyJet, par exemple, ne dessert aucune destination intérieure à moins de 3 heures et Ryanair n'a toujours pas obtenu de créneau horaire au départ d'Orly. Mais pour éviter toutefois qu'elle ne s'engouffre dans les créneaux abandonnés par Air France, le secrétaire d'État au transport, Jean-Baptiste Djebbari, a confirmé ce matin que le gouvernement allait prendre un arrêté invoquant des raisons environnementales. Les compagnies low-cost vont-elles pour autant s'incliner ? Elles pourraient en effet se considérer lésées au nom d'une concurrence déloyale avec le train. Mais là encore, les marges de manœuvre restent faibles, car un outil juridique européen, lui, existe déjà. L'article 20 du règlement européen de 2008, cet article autorise un État membre à limiter ou refuser l'exercice de droits de trafic lorsqu'il existe des problèmes graves en matière d'environnement. Cet article 20 comporte tout de même quelques nuances qui sont soumises à arbitrage et de plus, la validité des mesures d'interdiction doit être réexaminée tous les 3 ans.
Mauvaise nouvelle sur le front de l'emploi. Nokia annonce la suppression de 1233 postes en France dans la recherche, le développement et les fonctions centrales sur les sites de Paris-Saclay et de Lannion. Cette réduction d'environ un tiers des effectifs de Nokia en France s'inscrit dans le cadre d'un programme mondial d'économie, je cite, dans un contexte de marché où la pression sur les coûts demeure très importante. C'est ce que précise l'équipementier Quai Télécom finlandais dans un communiqué. Les élections municipales, on aurait tendance à l'oublier, mais le second tour aura lieu dimanche. Dans une semaine, donc, on connaîtra la couleur de la carte politique de ce scrutin un peu particulier. Pour la première fois dans l'histoire de France, les deux tours ont lieu à 3 mois et demi d'intervalle. Malgré un certain risque de démobilisation, le contexte est favorable aux écologistes dans de nombreuses grandes villes, comme à Bordeaux, Strasbourg ou encore Besançon, Pierre Neveu.
Pour les écologistes, le contexte politique est on ne peut plus favorable. Il y a tout d'abord une prise de conscience collective de la préoccupation environnementale et un affaiblissement de la gauche traditionnelle. Cela s'est concrétisé l'an dernier dans les urnes où la liste Europe Écologie avait obtenu 13,5% des voix aux européennes. Dimanche prochain, l'occasion leur est donc donnée d'incarner une alternative à la gauche classique. Rappelons que le 15 mars dernier, l'ancrage des Verts a atteint des niveaux inédits en menant bataille sur des listes autonomes, comme à Strasbourg ou à Lyon, ou sur des listes d'Union de la gauche, comme à Bordeaux, Toulouse ou encore Grenoble. Depuis ce premier tour, des alliances se sont nouées pour l'emporter. L'exemple de Marseille est significatif, où Michel Rubirola, médecin écolo, semble bien parti pour prendre la mairie à la tête d'une coalition de gauche. Devant la menace de perdre des capitales régionales, des fronts anti-verts se sont créés entre candidats à La République En Marche et Les Républicains, la droite classique reprochant aux Verts d'avancer masqués, vert dehors, rouge dedans. Jusque-là cantonnés au second rôle dans ces élections, les Verts ont dimanche prochain la possibilité de concrétiser une dynamique nationale à l'échelon local. Mais on le sait, les élections municipales offrent toujours une prime au sortant, qui plus est avec des élus qui ont pu mettre en avant leur expertise à l'occasion de la crise sanitaire du coronavirus.
Midi passé de 49 minutes sur France Culture. Dans l'actualité internationale, y a-t-il une nouvelle vague de Covid-19 en Allemagne ? La question est posée après l'apparition de plusieurs nouveaux foyers ces 2 dernières semaines. Du coup, le taux de reproduction du virus a bondi. Il est passé de 1,06 vendredi à 2,88 hier. À Berlin, la correspondance de Ludovic Piétenu.
C'est un taux que l'Allemagne n'avait plus connu depuis la mi-mars. Chiffre rapidement nuancé par les scientifiques de l'Institut Robert Koch à Berlin. Comme le nombre de cas est globalement faible en Allemagne, disent-ils, il suffit de quelques nouveaux foyers épidémiques pour avoir un impact relativement fort sur ce taux de reproduction. Sur une carte, cela ne concerne que deux districts dans l'ouest du pays. Plus de 1300 cas parmi les salariés du plus grand abattoir d'Europe. Une réaction rapide des autorités locales pour limiter toute propagation. 7000 personnes immédiatement isolées, toutes testées en l'espace de 4 jours, 21 hospitalisations seulement, dont 6 en soins intensifs. Un autre foyer dans 3 immeubles d'une même résidence, 120 cas positifs parmi les 700 habitants, qui samedi, 2 jours après avoir été placés en quarantaine, maintenus de force derrière une barrière métallique, ont, pour exprimer leur mécontentement, lancé des pierres et des bouteilles, blessant au passage plusieurs policiers.
Les habitants de Reading ont observé ce matin une minute de silence en hommage aux 3 morts victimes de l'attaque au couteau qui a eu lieu samedi. Les autorités ont finalement qualifié l'acte de terroriste et la polémique enfle au Royaume-Uni sur les conditions de surveillance des individus soupçonnés d'appartenir à des groupes djihadistes. Le suspect arrêté était déjà connu des services de sécurité, mais son dossier avait été classé sans suite. Sur place, les précisions d'Antoine Gignot.
C'est en 2019, il y a moins d'un an, que les services de sécurité s'intéressent au jeune homme et soupçonnent le réfugié libyen de vouloir revenir dans son pays d'origine pour y rejoindre un mouvement djihadiste. Il est placé sous surveillance, mais 2 mois plus tard, l'enquête s'arrête avec cette conclusion qu'Aïris Adallah ne représente aucune menace réelle, aucun risque immédiat. Les hommes de l'antiterrorisme le pensent, en revanche victime d'une maladie mentale. Un scénario plausible, la presse britannique publie des témoignages de proches qui parlent d'épisodes psychotiques, de traitements médicaux, évoquent aussi une grande consommation de cannabis. D'anciens étudiants qui l'ont côtoyé à l'université racontent qu'il se vantait d'avoir été un enfant soldat et d'avoir combattu contre les forces libyennes et le colonel Kadhafi avant de venir s'installer à Manchester, puis à Reading. D'autres témoignages évoquent un jeune enclin à faire la fête, emprisonné pour des délits mineurs. La police ne donne pas de précision sur le sujet. Il y a aujourd'hui 40 000 personnes recensées par les services de sécurité, explique Mark Crowley, ancien responsable de la lutte contre le terrorisme au Royaume-Uni. On considère, dit-il, que la grande majorité d'entre elles ne représente qu'un faible risque.
Le président tunisien est attendu cet après-midi en France pour une visite officielle. Les entretiens entre les présidents Macron et Kais Saied devraient aborder les questions régionales comme la crise en Libye et les relations bilatérales. La France est le premier partenaire commercial de la Tunisie, un pays dont l'économie est durement touchée par le confinement lié à la pandémie du coronavirus. Tourisme en souffrance, chômage, la grogne sociale s'amplifie et c'est un défi pour un président atypique, un ancien universitaire. Il ne vient pas d'un parti politique, il a été très largement élu en octobre dernier. Alors 8 mois après ce mécontentement social, ne risque-t-il pas d'éroder sa popularité ? Question posée à Kader Abderrahim, il est chercheur à l'IRIS et spécialiste du Maghreb.
Je crois qu'il conserve sa popularité. Ça ne signifie pas que ce sera le cas dans un an si la situation se dégrade encore, parce que la situation sociale est extrêmement inquiétante. Le confinement n'a évidemment rien arrangé, puisque l'économie tunisienne, soit elle était quasiment à l'arrêt, soit elle était au ralenti. Et le tourisme, qui constitue le 3e ou 4e poste de rentrée de devises pour le pays, inquiète énormément les Tunisiens, dont environ 950 000 à 1 million de personnes vivent de manière directe ou indirecte de l'économie du tourisme. Donc, oui, la grogne sociale est perceptible, mais elle est depuis longtemps. C'était déjà le cas avec son prédécesseur. Il y a beaucoup de revendications, énormément de grèves dans tous les secteurs. Pour autant, je crois qu'il sait qu'il est attendu et il sait qu'il doit prendre des mesures en priorité sur la question sociale. Le pays commençait à peine à se relever des 2 attentats coup sur coup qui avaient eu lieu à Tunis puis à Sousse. Donc ça va être une année très très difficile et une année 2021 qui n'augure pas de très bons signaux. Par conséquent, je crois que de ce point de vue-là, la France va probablement faire un geste sur le plan économique parce que c'est un allié fidèle et loyal et qui n'a jamais été un trublion sur la rive sud de la Méditerranée. Et je crois que le président Macron et le président Kais Saied devraient faire des annonces en ce sens.
Propos recueillis par Nabila Hamel. Kader Abderrahim a publié en février Géopolitique de l'Algérie chez Bibliomonde. Cet après-midi, midi, température fort agréable sur l'ensemble du pays. 19 degrés à Cherbourg, 24 à Paris, 30 à Marseille. Pour le temps, c'est simple, il va faire beau partout. C'est la fin de cette édition préparée avec Nathalie Lopez. Prochain journal à 18h avec Benoît Bouscarel.